Chaque semaine, c'est la Suisse en direct, la dernière de la saison avec Valérie. Bonjour.
Bonjour Charles.
Alors, pour notre chronique hebdomadaire, cette semaine, et pour finir cette série de 30 chroniques, où nous emmènes-tu ?
Eh bien, comme promis, je vais vous parler du Cervin et de l'histoire qu'il porte avec lui. Vous raconter toute son histoire moins de 5 minutes, ce n'est pas tout à fait possible, mais je vais essayer de la résumer. Le Cervin, en Suisse alémanique, c'est Matterhorn. Il culmine à une altitude de 4478 mètres. Il est le 12e sommet le plus élevé des Alpes, situé sur la frontière italo-suisse entre le canton du Valais et la vallée d'Aoste. Ce sont les stations de Zermatt côté suisse et Cervinia côté italien qui, à ses pieds, jouissent de sa splendeur au quotidien, du moins quand la météo le permet.
Le Cervin, ce n'est pas la montagne la plus connue de Suisse.
Tout à fait, notamment pour l'aspect pyramidal qu'elle offre depuis Zermatt. Son image est régulièrement utilisée pour les logos de marques tels que Toblerone, comme je vous en avais parlé, ou les fameux bonbons Ricola.
Et quand a eu lieu la première ascension ?
Eh bien, l'ascension par l'arête du Hörnli, le 14 juillet 1865, fut considérée comme la première vraie ascension du Cervin et également comme le dernier des grands exploits de l'alpinisme dans les Alpes. Cette ascension fut réalisée par Edgar Wimper. Arrivé à l'hôtel Monte Rosa, Wimper rencontre par hasard le vieux Peter Togwalder, guide à Zermatt, que Lord Francis Douglas avait déjà engagé pour une ascension du Cervin. Wimper peut se joindre à cette cordée, mais souhaite que Togwalder trouve un guide supplémentaire. Le 13 juillet soir, à l'hôtel Monte Rosa, deux groupes deviennent un groupe pour l'expédition, une cordée constituée de 7 membres. Groupe évidemment beaucoup trop important et en compétences hétérogènes pour entreprendre une telle ascension.
Merci Valérie, on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de la Suisse en direct sur BXFM. À tout de suite. La Suisse en direct, deuxième partie, on parle de l'ascension du Cervin avec Valérie. Alors, elle a une particularité, cette ascension du Cervin ?
En fait, oui, cette ascension est considérée comme difficile car il y a une partie importante d'escalade. Le plus dangereux, ce sont les pierres qui dévalent à cause des alpinistes qui précèdent ou qui redescendent. Puis, on considère avoir gravi le Cervin une fois de retour à la cabane Hörnli, tant la descente est plus périlleuse que la montée.
Et la suite de l'histoire pour cette première ascension ?
Elle est longue et aussi passionnante que tragique, puisque tous ne reviendront pas du sommet. Évidemment, tu peux imaginer qu'elle est très très longue à raconter et on n'a pas l'occasion d'en parler en détail ici, mais évidemment, le musée qui se trouve dans le centre de Zermatt mérite le détour si vous passez par là.
Concrètement, cette ascension se fait à partir d'où ?
En principe, la veille de l'ascension, les guides emmènent leurs clients, donc depuis Zermatt jusqu'à la cabane Hörnli, refuge du vrai départ. Cette cabane est située à l'altitude de 3279 mètres. Elle est accessible en 2-3 heures de marche depuis le lac Noir, avec une dénivelée de 679 mètres, ce qui est tout à fait réalisable. Moi, personnellement, j'y suis allée il y a une dizaine d'années et depuis, comme au Mont-Blanc, la cabane a été largement agrandie et restaurée. Il est évident que la cabane n'est ouverte que durant la saison d'été, car le Cervin ne se gravit évidemment pas l'hiver. Et d'ailleurs, cette année, il est encore particulièrement blanc en ce début de saison.
Et au sujet de cette cabane, tu nous avais dit d'ailleurs que tu nous parlerais d'un certain Kurt Lauber.
Très bonne mémoire, Charles, en effet. Kurt Lauber a été le gardien de la cabane Hörnli pendant plus de 25 ans jusqu'il y a 2 ans. Il est un personnage de Zermatt, car guide né à Zermatt. Il a franchi le sommet plus de 400 fois durant ses 25 ans. Et je vous recommande d'ailleurs de lire le livre « Gardien du Cervin » qu'il a écrit et qui retrace quantité d'histoires vécues lors de diverses ascensions.
Et aujourd'hui, que fait Kurt Lauber ?
Eh bien, il est descendu de 500 mètres et tient un restaurant d'altitude sur les pistes. À ses débuts dans ce gîte et un peu par hasard, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. C'était très intéressant. Il nous a relaté l'histoire de cet homme qui lui avait menti sur son âge avant l'ascension, tellement il rêvait d'atteindre le sommet, de celui qu'on appelle Oru à Zermatt. Ce passionné avait en fait plus de 70 ans et a fini la descente en hélicoptère puis à l'hôpital.
Il y a des fans inconditionnels prêts à tout. Et pour toi, que représente le Cervin ?
Eh bien, pour moi, c'est comme une icône qui dégage une puissance et une stabilité inébranlables. La photographier sous tous les angles est passionnant. Enseigner le ski face à lui est un honneur et je dois avouer qu'il y a des pistes à ses pieds qui sont juste fabuleuses.
Alors, à quand l'ascension ?
Eh bien, l'an passé, j'ai suivi de près l'ascension d'un groupe de femmes pros du monde du sport suisse. Une belle action marketing coordonnée par Dominique Perron, qui est directeur de l'école de ski de Zermatt, et qui les a emmenées là-haut et qui m'a aussi suggéré la chose. Mais honnêtement, je ne pense que ce ne sera pas pour tout de suite.
Et pour finir, où peut-on prendre ces renseignements pour l'approcher, nous aussi ?
Évidemment, sur zermatt.ch ou chez les Zermatters, la première école de ski et bureau des guides fusionnés de Suisse. Il y a là toutes les tronches zermatoises à disposition, même des descendants d'Hochwalder, crois-moi.
Merci Valérie, il est l'heure de nous séparer pour une pause estivale et on se dit très vite à la rentrée.
Oui, avec plaisir, et puis j'espère que cette trentaine de chroniques vous auront plu. Je tiens à remercier l'équipe de BXFM et vous, chers auditeurs, pour votre attention et peut-être même votre fidélité. Cela m'a donné l'envie de continuer l'exercice en tout cas. Bel été à tout le monde et à bientôt.
Merci.